Mais tout de suite, c'est le jeu de cette première partie. On décortique l'actualité environnementale avec notre témoin du jour. Aujourd'hui, c'est vous, Antoine. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de formation, diplômé de la prestigieuse École Centrale, mais dans les années 60, vous avez renoncé à votre carrière d'ingénieur pour vous lancer dans la chanson. Et là, c'est le succès. Oh yeah.
Oui, j'ai fait chanteur pendant 8 ans.
Et donc après, vous avez décidé, donc vous avez quand même chanté sur les scènes un peu partout, en Europe, aux États-Unis, etc.
Oui, beaucoup de voyages. Et puis comme j'étais passionné de voyage, j'ai découvert un jour le voyage en bateau.
Et donc au milieu des années 70, vous avez décidé de vous embarquer comme ça pour faire le tour du monde.
Voilà, depuis, je pensais que ça durerait 6 ans, ça fait 35 ans que ça dure.
Et donc vous êtes installé sur un nouveau catamaran il y a 20 ans, le Banana Split.
Il y a 20 ans, là je fête les 20 ans de Banana Split et puis de mon catamaran jaune. Et puis 20 ans de voyage et du plus beau métier du monde, puisque je voyage, filme, photographie, publie des films et des livres où je raconte ces voyages, et que les gens me donnent les moyens de retourner voyager. C'est, faudrait vraiment que je sois très bête pour pas réaliser à quel point c'est un privilège et un bonheur.
Oui, ça c'est sûr qu'on peut être nombreux à vous envier. Alors vous venez de publier justement, pour partager un peu cette chance que vous avez, un livre, 20 paradis, aux éditions Gallimard. Le but c'est justement de faire partager tout ce que vous voyez aussi de...
C'est montré dans ce livre particulièrement, qui s'appelle 20 paradis, parce que j'ai pris 20 exemples de personnes qui ont réussi aujourd'hui, ou dans l'histoire d'ailleurs, leur quête du paradis. Ils sont partis en Afrique du Sud, ou au Cambodge, ou en Australie, ou ailleurs, toutes sortes de personnes. Ça peut être aussi bien l'aborigène australien, ça peut être une femme japonaise tout d'un coup qui devient pour geisha pour quelques heures, ou bien les huguenots qui fuyant la révocation de l'édit de Nantes pour aller s'installer en Afrique du Sud, mais c'est également un routard qui s'est installé au Cambodge, et puis c'est également mes coins de paradis à moi.
Alors ça fait rêver, on en reparlera tout à l'heure, mais vous savez le principe de cette première partie,
oui.
C'est donc de commenter l'actualité environnementale du jour, et pour commencer, eh bien il y a ce rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie qui jette un pavé dans la mare à quelques semaines du sommet mondial sur le climat qui se déroulera à Copenhague à partir du 7 décembre. L'AIE estime que si les tendances actuelles se poursuivent, le gaz, le pétrole et le charbon représenteront encore 80% de la consommation d'énergie sur la planète en 2030. Or, on sait bien que c'est l'utilisation de ces gaz c'est l'utilisation du pétrole, du charbon et du gaz qui est responsable des émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent le climat. Et du coup, l'Agence internationale de l'énergie plaide, mais assez fortement, en incitant les politiques à suivre ses recommandations pour un développement rapide de l'éolien, du solaire, des agrocarburants, du nucléaire et du captage de CO2. Ça vous inspire quoi?
Ben c'est vrai, je pense qu'à force de, comme vous dites, de jeter des pavés dans la mare, ça risque de faire monter encore plus le niveau de la mer. Non, mais c'est vrai que je suis atterré quand je vois, bon c'est un petit microcosme, la Polynésie est un exemple souvent d'une petite modèle réduit, quoi. C'est là que je suis souvent, et là-bas, la chaleur, le soleil est très très présent, le vent est très très présent également, il y a des vents très bien établis et tout, donc c'est un pays qui devrait avoir depuis longtemps la plus grande partie, vraiment 90% de son électricité, de son énergie produite par l'éolien et le solaire et le thermovoltaïque. Mais pourquoi est-ce que ça vient pas? Pourquoi il y a des telles lenteurs? J'en sais pas. Je suis pas un politique, je suis pour toute action, information dans ce domaine-là, et je suis un peu atterré que ça n'aille pas plus vite, parce que c'est vrai que est-ce qu'on retombe toujours sur la théorie du complot que si les pétroliers n'avaient pas freiné depuis des décennies le développement du photovoltaïque en particulier, on aurait des panneaux solaires qui auraient un rendement 5 fois plus fort. Mais enfin, ça prend forme. J'ai visité ce week-end en Auvergne une des plus grandes stations individuelles
dans le centre de la France,
une des plus grandes stations individuelles, et c'est à la portée de tout un chacun. Donc, ce que je voudrais dire là, c'est que si les politiques...
C'est une station individuelle solaire?
C'est-à-dire quelqu'un avec les règlements actuels de l'EDF, etc., qui rachète l'énergie, chacun de nous peut, sur sa toiture, contribuer à ce que le bilan énergétique renouvelable, d'énergie renouvelable, s'améliore, puisqu'on peut installer des panneaux solaires, on peut vraiment le faire. Si les politiques mettent trop longtemps à se décider, ben c'est à l'individu, c'est à chacun de nous de faire quelque chose, et même si c'est une petite chose, ce sera toujours utile.
Mais c'est vrai qu'on voit bien dans le monde entier là que les citoyens s'organisent de plus en plus pour préserver leur planète.
Ben je crois que les citoyens, avec en particulier l'arme de l'internet, finissent par avoir un plus grand pouvoir que les politiques qui me paraissent moi en embourbés dans des marécages procéduriers, etc.
Il faut quand même donner une impulsion et financer les projets.
Il la faut, c'est bien. Je serai l'invité chez Michel Drucker dimanche prochain de Jean-Louis Borloo.
Ouais.
Et on parle bien sûr
Jean-Louis Borloo, ministre de l'Environnement, du développement durable.
Et la conversation a beaucoup porté sur ça. Je voyais en particulier, vous verrez dans l'émission, il y a beaucoup d'invités.
Qui est diffusé ce dimanche
sur France 2, avec beaucoup d'invités, comme Jacques Perrin qui parle de son nouveau film sur Océan, comme Olivier de Kersauzon qui parle de
cinéma de la mer. Tous nos auditeurs n'ont pas France 2.
Voilà, c'est ça. Alors je vais leur décrire une image qui sera sur France 2. Une image, c'est d'une injustice effarante. C'est une vue aérienne, vue satellite de nuit reconstituée avec plusieurs photos de tout l'hémisphère ouest, enfin l'hémisphère européen africain de la planète, quoi, de nuit. Et on voit toute l'Europe jusqu'à ses moindres recoins illuminée comme les Champs-Élysées, quoi, comme les Champs-Élysées à Noël ou comme la Tour Eiffel à Noël. Et toute l'Afrique, à part vraiment une petite bande de 5 kilomètres le long du Maghreb, le long de l'Algérie, du Maroc et tout, et puis l'Afrique du Sud, quoi, toute l'Afrique dans le noir absolu. Et c'est hallucinant que cette consommation d'énergie soit en plus si injustement répartie, quoi.
Et c'est encore plus hallucinant lorsque l'on sait que c'est justement les populations et les pays du Sud qui sont les premières victimes du réchauffement climatique.
Et qu'en plus, chez eux, il y a des sources où il y a du soleil, tout ce qu'il faut, il y a les moyens vraiment d'avoir de l'énergie propre. Qui n'a aucune conséquence sur le réchauffement climatique. Donc c'est vraiment là qu'il faut se dépêcher de faire quelque chose.
Alors au sujet, cette semaine a lieu le procès en appel de l'Erika. Vous savez, ce pétrolier qui avait fait naufrage le 12 décembre 1999 au large du Finistère, dans l'ouest de la France. Ça avait été une véritable catastrophe écologique, hein, puisqu'il y avait une marée noire qui avait souillé 400 km de côte et mazouté plus de 150 000 azots. Et hier, l'avocate générale, Françoise Mottès, a requis contre Total et sa filiale, Total Petroleum Service, une amende de 375 000 euros. Vous me diriez, c'est rien, hein, 375 000 euros pour
c'est
Total.
C'est pas grand-chose par rapport aux dégâts.
Mais c'est quand même le maximum pour un délit de pollution. Alors, c'est toute la question de la responsabilité environnementale des entreprises qui est derrière.
On voit, ben, comme vous le dites, c'est très faible. Et puis, c'est peut-être symbolique. J'espère que ça va pas encore se perdre dans des appels, des cassations, des trucs.
Ah, ben là, c'est en appel. Donc, si c'est condamné, c'est
défini. On a toujours vu des choses réapparaître derrière, d'autres possibilités de s'évader, quoi. C'est sûr que, bon, j'ai rien contre Total. J'utilise leur carburant régulièrement. Mais c'est un peu grotesque, leur attitude, quoi. C'est vrai que dans ce cas présent, c'est eux qui sont responsables. Bon. Je suis tout à fait en accord avec la LPO, avec
la Ligue de la Protection des Oiseaux.
J'ai la chance de vivre dans des endroits où je vis avec des oiseaux protégés, heureux. Je débarque dans des petites îles désertes où les oiseaux, je débarque tout doucement et avec précaution, et où je vais photographier et filmer des oiseaux heureux. Hein. Mais quand je vois les images, j'y m'est arrivé aussi de voir des régions dans le monde, de naviguer dans des régions moins protégées, de voir des pollutions continues, par exemple dans la mer Rouge du côté du golfe de Suez, des îles qui sembleraient paradisiaques et puis qui sont toutes entourées, totalement baignées de mazout et autres, ou bien même des endroits en Polynésie où les côtes au vent sont jonchées de toutes les saloperies qui viennent de la société de consommation, quoi. Mais bon, j'ai quand même beaucoup d'espoir.
Les élucubrations d'Antoine remixées par DJ Grenouille dans C'est pas du vent sur RFI en compagnie aujourd'hui justement d'Antoine. Alors ça vous fait quoi de vous entendre remixer?
Je vais la chanter comme ça, j'adore. Je vais la chanter comme ça, je fais mon spectacle, un spectacle tous les 5 ans à peu près. Et là je fais le 24 novembre un spectacle, un soir au petit Jourdain de Montparnasse dans un petit club. Et je vais la chanter comme ça.
Vous pourriez nous le faire
hein? Ben non, je sais pas, il faut que je m'entraîne. Je sais pas comment ils font d'ailleurs, parce qu'ils arrivent à stretcher, comme on dit, la voix pour qu'elle soit... C'est pas mon phrasé, c'est moi qui chante, mais c'est pas mon phrasé.
Ouais,
faut qu'ils me montrent comment ils font.
Ouais, c'est accéléré.
C'est bizarre, je sais pas. C'est pas seulement accéléré, c'est accéléré, ralenti. C'est mis en place différemment.
Bon, mais ça vous inspire en tout cas.
J'avais jamais entendu. Merci de m'avoir fait découvrir ça.
Mais je vous en prie, c'est l'heure de se pencher sur l'actualité environnementale d'une partie du monde. Aujourd'hui, zoom sur l'Europe. Et c'est avec vous, Delphine Evenoux, bonjour.
Bonjour.
Une décision de justice fait beaucoup parler outre-Manche. Le point de départ, c'est un écologiste britannique qui affirme avoir été licencié à cause de ses positions au sujet du réchauffement climatique. Et il a obtenu la semaine dernière, c'est ça qui est étonnant, le droit de poursuivre son ancien employeur devant les prud'hommes pour cette raison.
Oui, la justice britannique a estimé que le cas de Tim Nicholson relevait de la loi de 2003, une loi qui interdit toute discrimination pour des raisons de religion ou de conviction philosophique. Dans sa situation, c'est une conviction qui a des répercussions sur sa vie quotidienne, puisqu'il refuse notamment de prendre l'avion à cause de la pollution engendrée. De son côté, l'entreprise Grainger, qui est un des leaders de l'immobilier en Grande-Bretagne, soutient que ce renvoi est uniquement lié à la conjoncture économique. Mais finalement, la question n'est pas là. Ce qui nourrit le débat, c'est la définition de l'écologie. Alors, il y a ceux qui pensent qu'il s'agit de convictions politiques et non philosophiques. Il y a ceux qui s'énervent que l'on puisse réduire l'impact de l'homme sur le réchauffement climatique à une simple croyance, alors que c'est pour eux un fait scientifique. C'est la justice qui va trancher et qui sait, un jour, on pourra peut-être hurler sur son patron parce qu'il a jeté un trognon de pomme dans la poubelle de papier sans avoir peur de se faire renvoyer.
Antoine, ça vous a
bon, c'est clair, c'est pas une conception philosophique, simplement, c'est vraiment un débat scientifique, etc. Bon, c'est pas... Assimiler ça à une religion, ça me paraît un peu bizarre, quand même.
Alors, en France, c'est un record qui fait la une... En Espagne, c'est un record qui fait la une.
Oui, dimanche...
Pas en France encore,
malheureusement,
j'espère.
Ouais.
Alors dimanche matin en Espagne, l'Espagne a enregistré un record pas banal. 50% de l'électricité produite était d'origine éolienne. Tout ça grâce à des vents très forts qui ont soufflé sur une bonne partie de la péninsule. 50%, ça représente 11 500 mégawatts et c'est quand même l'équivalent de 11 réacteurs nucléaires.
Oui, c'est un bon point pour l'Espagne. C'est vrai que c'est la politique de José Luis Zapatero qui est assez active dans ce domaine, qui commence à payer. En Suisse, c'est à l'échelle locale que l'on essaye de sauver la planète.
Alors Genève se met au vert en signant les engagements d'Aalborg. Sous ce nom très nordique se cache en fait une petite localité danoise où a été élaborée une charte pour des villes durables en 1994. Genève avait été une des premières villes à la signer. Elle passe maintenant à la vitesse supérieure.
Et c'est assez ambitieux, hein?
Oui, donc d'ici 2020, Genève doit réduire de moitié sa consommation énergétique et viser le 100% énergie renouvelable. Vaste chantier, alors par où commencer? Déjà, le parc de véhicules et les installations de chauffage vont être rénovées. On va aussi développer les espaces naturels et les habitats de qualité. Et puis, il y a des mesures auxquelles on pense moins souvent. Par exemple, la ville doit privilégier les produits locaux et de saison dans la restauration collective. Dans un entretien au quotidien suisse Le Temps, le projet est bien résumé par Sandrine Salerno, conseillère administrative aux finances et au logement. Elle dit que c'est le passage de la sensibilisation à l'action proprement dite. Un exemple à suivre.
Merci Delphine Evenoux.
C'est pas du vent. @rfi.fr
Antoine, le passage de la sensibilisation à l'action proprement dite, ça vous parle?
Ben,
c'est ce que vous essayez de faire, vous, à travers vos livres et vos documentaires.
Je crois qu'il faut... Pour moi, j'ai choisi un angle de montrer la beauté. Je sais qu'il faut qu'il y ait des gens qui dénoncent, qui... C'est plutôt un travail de journaliste, de montrer ce qui va pas, de montrer la laideur, quoi, de montrer l'oiseau pollué, etc., la plage polluée, l'oiseau mazouté, etc. Moi, je m'en sens pas capable, dans ce sens que mon gagne-pain, mon comment dire, ce qui me permet de vivre, ce sont les images. Et je serais incapable de gagner un sou sur une image de laideur. Je pourrais pas, quoi. Alors j'ai choisi de montrer la beauté et puis de dire constamment, d'une façon discrète, modeste, que ben cette beauté, faut la protéger, quoi. Et j'espère que des fois, ne voir que la laideur, ça peut démobiliser. Et donc j'ai toujours à la recherche d'images de points positifs, quoi. Je pense que
c'est ce dont on parlera dans la deuxième partie de l'émission,
l'écologie du bonheur. Oui, je crois que c'est vraiment une bonne notion. Donc je suis toujours à la recherche d'images positives, et même si les mers que je visite sont souvent polluées, souvent abîmées, j'essaie toujours d'y filmer ce qui est positif et de trouver la bonne nouvelle, le corail qui repousse, les poissons qui ne sont pas surpêchés ici ou là, et ainsi de suite.
Et vous essayez aussi de permettre de diffuser des messages, notamment à travers le site internet que vous avez créé, Touchez pas à la mer.
Voilà, j'ai écrit cette chanson Touchez pas à la mer il y a 22 ans à peu près. Je l'ai chantée en particulier, beaucoup de dom-toms la connaissent, des gens des dom-toms. Ça n'a jamais été un tube, mais ça a été une chanson que tout le monde se rappelle, y compris dans les îles les plus lointaines de Polynésie, où je vois les Polynésiens me dire Touchez pas à la mer quand ils me voient tout de suite. Alors je me suis dit, si ça peut rester 20 ans comme ça dans la mémoire des gens, ça vaut la peine de s'y remettre. J'ai réenregistré la chanson, avec des Polynésiens d'ailleurs. J'ai créé un site internet, touchezpasalamer.org, dont le but est uniquement de donner à toutes les chorales, si vous avez dans vos amis une chorale, une classe de chant, un professeur de chant, ou des gens qui aiment chanter simplement,
libre de droit,
l'enregistrement de la chanson, les partitions, tout ça, pour chanter Touchez pas à la mer, en faire un peu l'hymne de la mer.
Merci Antoine d'être passé dans C'est pas du vent. Je rappelle que votre livre s'appelle Vin paradis et c'est publié chez Gallimard. C'est pas du vent revient dans un instant. Nous parlerons d'une écologie du bonheur avec Éric Lambin. À tout de suite.